Vous entrez dans les ateliers de la nuit. C'est une injonction de James Joyce dans Ulysse. Elle date de 1922. Mettre un gramophone dans chaque tombe. C'est presque un ordre, un rappel. C'est une invitation à penser plus loin, à imaginer que l'on pourrait aller jusque-là, que l'on pourrait poursuivre les âmes jusque dans leur tombe. Les voix pourraient continuer à s'inscrire, à s'enregistrer. Puisqu'à la radio, on est délivré du corps, pourquoi la parole aurait une fin ? Puisqu'au moment où vous écoutez, vous n'êtes pas relié dans l'espace à la voix qui parle, ni dans le temps. Ce que vous entendez a déjà été prononcé et vous êtes ailleurs. Se pose alors cette question. Peut-on enregistrer, puis écouter la voix des morts ? De quels outils a-t-on besoin ? Si le gramophone est enfin dans chaque tombe et la radio dans chaque salon, le contact serait immédiat. Le simple fait d'ouvrir le transistor permettrait de faire apparaître des fantômes. La radio et autres dispositifs capables d'électriser la parole sont des machines à fantômes, disait Gilles Deleuze. La radio nous ferait entendre d'autres mondes. Philippe Baudouin est un de ces hommes qui pensent que l'on pourrait aller jusque-là, qui a foi en la radio, et qui reçoit comme un devoir, ou presque une mission, le fait de ne pas abandonner les voix. Il ne croit pas à la différence entre le jour et la nuit. Il pense que l'une prend le relais de l'autre et que la radio accompagne forcément la vie et sa suite. On ne connaît pas tout, on n'entend pas tout, mais ce soir, on en saura un peu plus. Nous entrons dans l'imaginaire de la radio occulte. Les langues de l'éther, par Philippe Baudouin, réalisation Lionel Quentin.
Ah oui, d'accord. Après 4 ans d'interruption avec la transcommunication instrumentale par laquelle je correspondais avec Nathanaël, mon fils, envolé dans l'à côté le 19 octobre 1996, j'ai repris ce premier trimestre 2005. De nombreux messages m'ont été à nouveau offerts. J'ai donc décidé de reprendre la TCI après avoir eu bien du mal à trouver un dépôt de magnétophone AQ6455 de chez Philips, dont la fabrication est interrompue.
Si la radio était en mesure de nous faire entendre d'autres mondes, et si le simple fait de tourner le bouton de son transistor permettait de faire surgir des fantômes dans son salon, ou bien de communiquer avec d'autres planètes. La radio et les autres dispositifs destinés à électriser la parole sont des machines à fantômes. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, les inventeurs du phonographe, du téléphone ou de la télégraphie sans fil ont, pour la plupart d'entre eux, pratiqué le spiritisme et mené en parallèle de leurs travaux bien connus, des recherches dans le domaine des sciences psychiques. Comme si, dès l'origine, il y avait eu une sorte de consanguinité entre ces machines parlantes et les phénomènes occultes. Si tout cela est vrai, qu'en est-il d'Oliver Lodge ? Est-il parvenu à réunir par le biais des ondes les conditions d'une transmission télépathique ? Thomas Edison, l'inventeur aux 1000 brevets, a-t-il réussi à enregistrer la voix des morts à l'aide de son nécrophone ? Quant à Nikola Tesla, a-t-il vraiment entendu, grâce à son système télégraphique, des signaux
venu de Mars.
Autant de spectres et de mystères dont recèlent les langues de l'éther.
Et soudain, ah, soudain, que nous veulent ces voix ?
Peut-être que l'éther nous parle, et peut-être que, je prends les langues en ce sens-là, c'est-à-dire que l'idée qu'il faut des supports de communication, que ces supports de communication nous échappent et qu'on ne les comprend pas, c'est l'idée qu'il y a d'autres syntaxes peut-être.
En fait, les anges pourraient à la limite être eux aussi des champs magnétiques ou des trains d'ondes.
Oui. Certainement, comme disait déjà Shakespeare, il n'y a plus de choses entre le ciel et la terre que n'en connaît votre philosophie.
Lonza del Vasto.
C'est là qu'on l'a, le frisson des espaces infinis qui nous effrayent, qui ont une raison même corporelle de nous effrayer, puisque nous sommes là, habitants d'un monde inhabitable. Et on sent là que la Terre n'est qu'une partie tombée du ciel, et restée dans le ciel, si vous voulez. On est entouré de ciel, et de ciel seul. Mais nous le sommes aussi ici, dans cette maison de la radio. Mais nous ne nous en apercevons pas. Nous sommes entièrement coupés. Maintenant que ces mêmes instruments qui servent à nous couper puissent, disons par accident, servir aussi à nous rapprocher. Car après tout, il y a quelque chose de très fantastique à penser que je suis en train de vous parler en ce moment et qu'il y a des milliers de gens que je ne vois pas et qui m'écoutent. Et qui m'écoutent même dans un futur. Qui ne sont ni là, ni dans l'espace, ni dans le temps. Nous posons un acte qui résonne dans l'univers et je ne sais pas jusqu'où.
L'éther est perçu comme une espèce de milieu dans lequel nous sommes plongés.
Jean Schneider.
Il y a quelque chose de très aquatique, de très utérin dans cette affaire. Je pense qu'on pourrait parler de pensée utérine à propos de cet éther dans lequel nous sommes plongés et qui véhicule des énergies psychiques, voire guérissantes. J'avoue que je ne connais pas bien l'étymologie du mot éther, mais... Bon, c'est un mot qui est là avant que la science s'en empare. Et donc, comme souvent, même quand les scientifiques les ont repris à leur compte, voire détruits, le mot, il reste et il continue à véhiculer toutes sortes d'imaginaires.
J'ai bien éteint, oui. Non, j'ai pas éteint d'abord.
Emmanuel Dilac.
J'ai mis des coussins pour vous détendre, comme vous pouvez dans cette salle. Alors, tout ça, j'ai obtenu ces magnétos, là. C'est l'IFM qui foutait ça à la casse.
Oh. Sinon, vous n'auriez pas pu reprendre...
Ben, j'aurais... Non. Parce que tous les magnétophages, j'en ai 5 en bas, les petits comme ça. Et vous voyez, ben, toutes les fiches déglinguent, hein, ces petits magnétos, là.
Ça, c'est fragile, oui.
C'était fragile. Par contre, il y avait un ralentisseur sur le côté... Oui, ici, là. Hein, donc, on pouvait aller plus ou moins vite. Et ça, c'était vraiment très pratique pour qu'on n'a pas sur les autres. Ah oui, d'accord. Je suis obligé de revenir en arrière. Elle n'avait pas embobiné. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Attendez, là, il y a quelque chose. C'est toujours comme ça. Je ne suis pas un technicien, mais disons que je recherche au niveau de la voix tout ce qu'il y a de plus ancestral, de plus inscrit dans la voix. Donc je pense que la voix est sortie des, comme les formes animales, par exemple, mais leurs cris sont sortis du magma, des premières gestuelles volcaniques. Tout ça, c'était des grands mouvements qui ont donné naissance avec l'air, avec la lumière, etc., qui ont donné naissance à des corps, à des formes, à des sons qui ont été captés. Et là où était l'animal, peut-être primitif, il entendait ces sons de l'environnement, il les captait et peut-être que ça transformait sa forme première, organique. Et petit à petit, ce sont nés des familles de formes. Alors on peut dire que c'est né petit à petit ou qu'il y a des êtres, alors là c'est une autre thèse, des êtres qui sont d'un autre monde, dans d'autres fréquences et qui aident à sa transformation. Ça c'est une possibilité aussi. Voilà un dossier. Un des dossiers, ben, j'ai des centaines de cassettes. C'est ça qui... Il faudrait que je réécoute tout. Voilà, tout, j'ai noté exactement ce que j'entends, hein, voilà, en détail. Et vous avez les cassettes qui sont là. Et ce que je vais vous faire entendre, ce sont les meilleurs messages de ces 6 cassettes. Alors, c'est le magnétophone que vous avez là, par exemple. Hein. C'est le magnétophone, je crois, AQ75, Philippe. Qui a disparu comme les autres d'ailleurs, et puis ces petites radios-là. Donc je passe sur les ondes courtes, là, et puis j'enregistre avec le micro ici. Et après, bien sûr, je reviens en arrière, là, la cassette, et je réécoute. Alors le plus long, c'est le déchiffrage. La seule crainte, c'est peut-être de dire, lorsqu'on fera par exemple cet après-midi un essai, c'est de dire, est-ce que... mon gamin, il n'a pas autre chose à faire de l'autre côté, quoi. Est-ce qu'on lui permet de venir? Est-ce qu'il va pouvoir venir? Je me pose des questions pour cet après-midi, par exemple. Hein? Mais dans tout ce que j'ai pu pratiquer, j'y allais sans crainte. Je me disais, si on me permet, je me suis dit, bon, j'y vais. Et puis, peut-être qu'il faut que je plaque tout, d'ailleurs, ma peinture, ma poésie, pour ne faire que ça, quoi.
Messieurs, la fée électricité est une personne éthérée qui ne saurait, malgré son désir, lever son verre à votre santé. Pour s'en excuser, elle vous ménage une surprise. De son dernier palais, le grand centre de télégraphie sans fil de Sainte-Assise, des ondes vont s'envoler jusqu'à vous. Et ces ondes, en votre honneur, en l'honneur de la science électrique française et de son illustre fondateur, vont vibrer toutes modulées d'harmonie.
Il y a un parallèle entre l'histoire des techniques et puis l'histoire des techniques spirites.
Christine Berger.
Et en même temps, il y a une perspective historique de très grande profondeur, puisqu'il y avait déjà des pratiques d'inscription de l'invisible et de divination depuis la plus haute antiquité. Donc on a vraiment une sorte de sédimentation, de récit jusqu'à nos jours, depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à nos jours. Et effectivement, ça commence par la découverte de Samuel Morse, la découverte du télégraphe. Et on s'aperçoit qu'il travaille sur ce télégraphe entre 38 et 41. Et que avec son assistant, Ernest Veil, qui lui a inventé le code Morse. Et en 48, les sœurs Fox, finalement, s'amusent avec quelque chose qui est déjà de l'ordre d'un code, mais adressé à l'usage des esprits.
Come and get it.
elles sont en train de jouer et puis elles ont l'idée d'appeler des esprits, elles jouent en fait avec leurs playmates, c'est des copains invisibles. Et elles ont l'impression qu'il y a quelqu'un qui leur répond. Alors elles disent, il faudrait qu'on invente un code pour répondre.
Oh, there's a big storm headed this way.
You'll be asleep by the time it gets here if you hurry. Come on, in you go.
Et elles vont inventer la typologie, elles vont donner des coups. Et tant de coups, ça devient une sorte de code alphabétique. Est-ce que tu peux répondre si tu nous entends? Et puis alors à ce moment-là, l'esprit donne des coups. Alors évidemment, ces coups, à la fois, ce sont des coups ludiques et en même temps, peut-être que ce sont des petites filles qui entendent des coups. Bon, et ça, l'histoire des coups, après, des coups donnés dans les murs, va donner naissance à vraiment toute une superposition de récits sur les maisons animées, les maisons hantées. Voilà, donc en fait, déjà, c'est un développement d'une sorte de typologie télégraphique par les Sœurs Fox.
Good night, Mom. Good night.
One of the things that's most uncanny about radio,
Jeffrey Skuns,
is the fact that people are anticipating something like radio before it even exists.
Ce qu'il y a certainement de plus étrange dans la radio, c'est le fait que les gens ont anticipé quelque chose de similaire à cette technique avant même que celle-ci ne fût inventée. Avec l'invention du terme télépathie à la fin des années 1870 et les expériences spirites dans les années 1850, on parle déjà d'une information désincarnée, présente dans l'air et qui peut être dirigée et transmise.
New York, octobre 1920. Interviewé par B.C. Forbes pour The American Magazine, Thomas Edison profite de l'occasion qui lui est donnée pour rendre public des recherches qu'il mène sur une machine qui permettrait de communiquer avec les morts. Voici ce qu'il déclare aux journalistes. Je voudrais fournir aux chercheurs spirites un appareil qui leur permettrait de travailler d'une manière strictement scientifique. Cet appareil est basé sur le principe de la valve. Tout comme un microphone amplifie plusieurs fois le volume et la portée de la voix humaine, ma valve amplifie énormément toute force ou énergie, aussi minime qu'elle soit, par laquelle un esprit pourrait se manifester. Je travaille déjà depuis un certain temps à la mise au point des détails. D'ailleurs, un de mes assistants dans cette tâche vient de mourir. Comme il connaissait exactement le but que je poursuis, je suppose qu'il sera le premier à se servir de mon appareil. À condition, bien entendu, qu'il soit en mesure de le faire.
Va se définir à ce moment-là comme une sorte de télégraphie céleste.
Patricia D'Andrea.
Puis il y avait aux États-Unis, donc les gens ont tout de suite, il y a eu un immense enthousiasme autour de ces phénomènes en faisant la jonction entre la découverte du télégraphe et précisément la possibilité de pouvoir parler avec les esprits. C'est-à-dire, si on peut parler avec l'au-delà physique, pourquoi ne pas parler avec l'au-delà temporel, c'est-à-dire au-delà de la mort.
Il y a eu des époques où on essayait de faire revenir les gens qui étaient morts. Et il y a des gens que ça a rendu fou. Parce que c'est possible, et mon grand-père ne savait pas l'expliquer.
Paris, novembre 1890. Édouard Branly a réussi à mettre au point lors d'une série d'expériences, le principe de radioconduction et surtout son fameux cohéreur conçu pour la réception des ondes électromagnétiques. Mais ses recherches sur l'invisible ne font en réalité que commencer. Entre 1905 et 1908, il participe activement avec Pierre Curie et Henri Bergson aux séances organisées par l'Institut Général Psychologique pour étudier les matérialisations ectoplasmiques produites par Eusebia Palladino. Marion Tournon grand lit, sa petite fille, se souvient de l'intérêt qu'il avait pour ces phénomènes mystérieux.
Nous avions dans le mobilier que nous avions à Boulevard Saint-Michel, il y avait une petite table ronde en bois très léger avec un trépied. Alors, il nous racontait que quand on était dans le salon et qu'on bavardait, que quand il faisait ces recherches-là, cette petite table pouvait aller jusqu'à lui en faisant je suis là en train de prendre le thé, c'est pas du tout mon genre, mais tant pis, je prends le thé. Le thé est fini, on doit plier la table, on la met de côté. Eh bien, cette petite table, il pouvait la commander et elle faisait des bonds très maladroits pour arriver jusqu'à lui. Alors, parce que sans doute, lui, il mettait une intensité de pensée. Alors, moi, je n'ai pas voulu, parce que je ne voulais pas être influencée par cette petite table ridicule qui prend la place de tout et qui bouleverse tout le monde. Ma sœur l'a gardée.
Et justement, comment il expliquait, lui, ce mouvement ?
Alors, il disait, on ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout, et il voyait très bien qu'on pouvait circuler dans le cerveau et se promener.
Ménie Grégoire, RTL, 1976.
Eh bien, comme je vous l'ai promis hier, nous voici en pleine expérience. C'est notre première expérience. Nos deux amis que vous avez entendus hier au téléphone, Corinne et Claire, sont avec nous dans le studio depuis à peu près un quart d'heure. Il y a donc le docteur G, moi, mon assistante Claudia et notre réalisateur Bernard. Nous avons commencé par retourner sur la table, qui est une table de marbre, un petit verre à vin sans pied, je précise, un godet. Le fond est tourné vers le haut. Corinne a disposé en un grand cercle autour du verre des petits cartons qui portent les 24 lettres, 24 cartons, plus les 10 chiffres, 10 cartons, et un carton où il y a écrit « oui », un carton « non ». Nous avons tous posé l'index droit sur le fond du verre et on attend. Et je vous signale que jusqu'ici, rien n'a bougé, mais que si ça bouge, ça devrait même faire du bruit, vous devriez même l'entendre, parce que du verre qui bouge sur du marbre, ça doit faire un grincement.
Ah, il a bougé. Il a bougé vers ma gauche. Moi, je ne sens rien, mais je sens bien, je vois bien qu'il bouge.
Si tu es parmi nous, dirige-toi vers le mot « oui ». Tu as assez d'énergie pour te déplacer, fais-le. Écris le nom de...
Ma fille aînée. E... Eve, c'est exact.
Les machines n'ont pas fait disparaître les fantômes, elles les ont... amplifié.
Olivier Schaeffer.
Leur ont donné même davantage d'importance, presque de corps, ce qui est paradoxal, puisque je rappelle que fantôme, c'est lié au spectre, hein, et que ce soit le mot fantôme ou que le mot spectre, hein, ça désigne la vision. Spectrum et specere en latin, c'est voir, c'est regarder. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre à la fois de la c'est une apparition, hein, donc qui se donne à voir, qui a l'apparence d'un corps sans en avoir la réalité. Et donc, les fantômes, bien, ils naissent et ils passent à travers aussi des machines, hein, qui sont des machines, à communiquer. Par exemple, ce qu'on est en train de faire. Je pense qu'il y a beaucoup de fantômes qui passent.
On entend l'eau, là. Ouais, on vient d'entendre, là. Je vais revenir en arrière. C'est très petit, hein. Donc voilà, ça a été le premier signe. Alors, moi, j'ai entendu papa. Maintenant, est-ce que, comme il y avait d'autres... un groupe de jeunes dans la vallée et des amis de Nathanaël, peut-être qu'à un moment donné, ils ont émis quelque chose. Enfin, moi, j'ai cru entendre papa, et ça a été le démarrage, ensuite, d'autres messages que j'ai pu obtenir. Voilà. Alors, c'est papa, hein, c'est un tout petit essai, hein.
Et là, en fait, on était plusieurs mois après son décès.
Ça, c'était en février, donc 4 mois à peu près, hein, après son départ. La transcommunication instrumentale, c'est un éventail de recherches à mettre en phase, qui peut être fait de façon différente, selon des supports différents. On peut travailler sur des supports radio, mais sur tout autre bruit. Moi, j'ai fait des bruits de carton, j'ai fait des bruits de papier, on peut inventer des matières de son qui permettraient à transmettre les fréquences qui sont, par ailleurs, invisibles et pas sonores dans un premier temps. La transcommunication, c'est elle est révélatrice. Elle révèle. Lorsqu'on entend ces voix, ça chamboule complètement notre pensée, notre système de pensée. Et on se dit, ben, y a quelque chose qui continue de l'autre côté, c'est fantastique. Donc c'est fascinant parce que la vie continue d'une autre façon, à travers d'autres fréquences. Nous sommes déjà un corps de fréquences, c'est déjà admirable, c'est extraordinaire quand on y pense. C'est des milliards de cellules.
Une nouvelle bande vierge fut mise en route pour l'enregistrement. Puis, on a repassé la bande. On découvrit que des voix et des mots reconnaissables avaient été enregistrés sur la bande. Le livre de référence le plus complet à ce sujet est celui de Constantin Raoudim. Il a enregistré 100 000 phrases de ses voix. Le débit est presque le double de la vitesse normale et le son est pulsé selon des rythmes comme la poésie ou le chant. Ses voix empruntent un certain nombre d'accents et de langues, souvent fort peu grammaticales. Les psychiatres nous disent que toute voix que quelqu'un a entendue dans sa tête y trouve son origine. Et qu'elles n'ont ni ne peuvent avoir d'origine étrangère.
Vous avez entendu des choses ?
Bah oui.
Peut-être sommes-nous en train de marcher sous un dôme électromagnétique de mots et d'images préenregistrés.
William Burroughs, 1976.
Un des premiers textes de Raoudive s'appelait « De l'inaudible à l'audible ».
François Bonnet.
Raoudive est un universitaire letton qui était professeur de psychologie et qui s'est intéressé assez tôt aux travaux d'une autre personne étrange qui s'appelait Friedrich Jürgensen, qui lui... et à la fois un réalisateur, à la fois un portraitiste. Il a établi des portraits du pape Pie XII.
et qui était destiné à une carrière de chanteur d'opéra dans ses jeunes années, d'origine russe, installé en Suède, qui a, dans l'histoire de ses pratiques, inauguré, on va dire, l'expérience du phénomène de voix électronique. Il avait acheté un petit magnétophone pour s'enregistrer chantant. Et un jour, il a enregistré des oiseaux et a relu la bande à l'envers et aurait entendu des voix qui parlait des oiseaux de nuit. Donc il a travaillé là-dessus, il a fait beaucoup de conférences et Konstantin Raudiv s'est beaucoup inspiré, il a rencontré Jurgenson, il s'est inspiré de ses travaux et a essayé d'établir des protocoles expérimentaux pour écouter la voix des morts.
Et on peut dire, la bande magnétique, pour moi, elle représente une sorte de symbole saturé. La bande magnétique, c'est un outil technique. Et en même temps, là encore, c'est un symbole, c'est-à-dire que c'est un corps qui fait communiquer. C'est une bande, un peu comme dans beaucoup d'ethnies dans le monde entier, la voie lactée, c'est une bande sur laquelle voyagent les vivants et les morts. Les vivants vont sur la voie lactée pour aller vers leur destin. Donc on a toujours cette notion de chemin, de traversée des âmes, hein. Et en même temps, cette bande est un support très sensible et elle est elle-même semée donc d'un matériel, puisque les dépôts de matière magnétique, ça n'est pas rien. Il y a bien un dépôt de quelque chose. Et par la suite, tous les transcommunicateurs vont jouer avec cette bande, avec les résidus qui sont sur les bandes, et ils font des enregistrements superposés. Ils réenregistrent avec les mêmes bandes magnétiques. Donc on finit par avoir des restes de matière magnétique qui sont réorganisés, parce qu'on sait qu'il y a une polarisation avec les microphones de tout ce matériel magnétique. Et donc, on travaille, j'allais dire presque, on travaille avec les restes humains quelque part, hein. On est à la fois dans un support dermique ou épidermique d'une peau acoustique qui est tendue entre le monde des morts et le monde des vivants, qui est sensible, qui enregistre, qui peut restituer, qui peut être blessé, parce que quand je suis allée aux États-Unis en 1991 pour justement enquêter dans ce domaine-là, j'avais été dans une famille où la dame avait dit, quand on a entendu notre père, on était tellement heureux qu'on écoutait, on réécoutait la bande et on a fait un trou dedans. L'endroit le plus fort où il disait « je vous aime tous », ils ont fait un trou dans la bande à force d'écouter la bande. Donc on voit bien que la bande ici, c'est le lien vraiment matériel qui reste comme une sorte de peau commune tendue entre les vivants et les morts. Et on est capable de la blesser.
Yann Parentoen, qui a eu l'occasion d'écouter ces bandes magnétiques, oui. On a fait une sorte d'analyse, d'expertise. Vous vous souvenez en quelques mots?
Alors, donc, on avait un petit peu discuté. Lui, c'est un ingénieur du son. Donc, il voulait savoir s'il y avait quelque chose sur ces bandes ou s'il n'y avait rien, effectivement. Et il se disait, ce qui est quand même curieux, c'est vrai que c'est un moment qui correspond à une inscription qui suit la question.
Yann Parentoen, 1990.
Enfin, ce qu'on entend, on entend une voix très, je dirais, très proche. L'au-delà serait donc très proche. Habituellement, en réalisation, quand on nous demande d'essayer de travailler sur l'au-delà au niveau des comédiens, c'est toujours une voix dans l'écho, etc., une distance. Et là, curieusement, on entend une voix proche et un souffle très très fort, qui est dû, je ne sais pas, enfin, je ne le cite pas bien, l'élément est vraiment très court, il fait 2 secondes à chaque fois. Je pense qu'il faut rester sur le pourquoi pas.
Il faut peut-être s'interroger sur la tangibilité d'un tel enregistrement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez pu faire?
Oui, bien sûr, on peut très bien l'imiter. Et j'entends aussi une interprétation, enfin, j'entends presque un comédien. Il y a un décalage entre la voix et le souffle. La voix ne semble pas être sur le canal du souffle. Ces deux sons semblent séparés.
Et ça veut dire que la voix est derrière le souffle.
Derrière le souffle, oui. Elle n'existe pas dans le souffle. Elle est à côté, comme une superposition.
Aujourd'hui, c'est vrai que les ondes courtes existent encore, mais force est de constater que tout est devenu numérique. Or, ce qu'il y a entre le signal et le bruit que l'on entend, cette question de l'existence, d'une autre voix, d'une autre présence, c'est peut-être ce qu'on a perdu aujourd'hui. Vous savez, les gens plaisantent en disant « Peut-il y avoir des fantômes numériques ?» Je pense que non, ce n'est pas possible. Ils sont analogiques. Les fantômes sont analogiques. Ils existent dans des formes présentes dans l'éther. Donc oui, il y a une croyance surnaturelle qui consisterait à dire que la radio déverrouille un monde, qu'on veut ou qu'on ne veut pas déverrouiller, et qui est présent à l'intérieur même de celle-ci.
Bon, si ça a marché, vous emportez la cassette et puis vous, comme ça, vous pourrez à tête reposée déchiffrer.
Donc vous avez branché votre micro.
Alors j'ai branché. Ah oui, voilà, pas oublié quand même. Donc là, ça marche. Après, j'enverrai en route ici. Je vais déjà chercher. J'ai essayé. Vas-y là. Alors, on a beaucoup de musique, quoi. Je vais essayer de balayer un peu. Ah, ça, c'est pas mal, il me semble. Ah, ça a l'air pas mal. Là, on est dans les bruits blancs, ce qu'on appelle... Allez. J'espère, Nathanaël, que tu es de l'autre côté. Si tu peux intervenir, ça serait bien. Ça serait sympa, mais si la Providence veut bien, hein. Tu es libre, hein. Je t'écoute, là. Vous avez entendu en direct, là. Je t'écoute. J'essaie plusieurs sons en balayant sur les ondes.
Londres, le 10 mai 1897. Oliver Lodge dépose un brevet préconisant l'utilisation de son procédé de syntonisation. La syntonie est un terme un peu oublié aujourd'hui, alors qu'il désigne pourtant un geste quotidien. Celui de tourner le bouton de son poste de radio pour se caler sur la fréquence de la station souhaitée et obtenir le signal le plus satisfaisant en évitant toute forme de parasite ou d'interférence. Cela consiste à mettre en accord les fréquences entre les émetteurs et les récepteurs de radiodiffusion. Or, le mot de syntonie, employé ici dans le domaine de la physique et de l'électricité, a une toute autre origine. C'est en effet aux frères Frédéric et Arthur Myers, deux éminents chercheurs en sciences psychiques, que l'on doit l'invention de ce terme. Ils l'ont forgé spécialement pour leur ami Oliver Lodge, dont ils admiraient les recherches dans le domaine de la télégraphie sans fil. La syntonie, en science psychique, est synonyme de ce phénomène mystérieux, que l'on désigne habituellement sous le nom de télépathie ou de transmission de pensée. Et de la même manière que dans ce type d'expérience, l'agent fait résonner par la seule force de l'esprit des informations à destination d'un percipient, Le dispositif radiophonique consiste à mettre en accord un émetteur, la station qui diffuse avec un récepteur. La syntonie est donc une sympathie rendue possible par les ondes.
Là, je bouge. Je stabilise. Il me semble avoir entendu ça. Après, il va falloir découper là-dedans, ce qui n'est pas rien.
Et donc là, il y a une phase de réécoute qui est nécessaire.
Ah oui, la phase de réécoute, c'est la partie la plus dure. Des fois, on a entendu, moi j'ai entendu, parce que j'ai l'habitude, je vous écoute, il y a eu des choses. Mais où je vous bise, bon, maintenant, il va falloir réécouter assidûment. Et c'est ça le plus long à faire. Là, c'est pas rien. Pourquoi j'éteins ? C'est pas ça que je vais faire. Donc là, j'ai arrêté au numéro 100 pratiquement et je reviens en arrière. Donc je vais réécouter la bande petit à petit. Il y a quelque chose là, mais quoi ? Moi, je suis attentif au nom d'Ilac ou tout ça. Donc, j'ai quelques repères comme ça. Si j'entends, après, j'essaie de voir si c'est bien ça, s'il a bien dit ça ou s'il s'est nommé, etc. quoi. Je t'aime. J'ai ta réponse, quelque chose comme ça. J'ai ta réponse, et on entend le S à la fin. Vous entendez là? Moi j'écoute, mais c'est très petit. Avoir un bredouillet en permanence, quoi, c'est... Bon, je sais pas. C'est Nat. C'est... Oui, c'est Nat. Je reconnais son timbre de voix. Moi, j'écoute. Oui, c'est Nat. Alors, c'est très, très, très petit. Hein. Moi, j'écoute. Oui, c'est Nat. Bon. C'est Nat. Sénat, moi Dilac, ou Sénat, monsieur Dilac. Voilà. Mais chantez, hein. Sénat, Sénat, moi Dilac, Emmanuel Dilac, ou... J'espère, Nathanaël, que tu es de l'autre côté. Si tu peux intervenir, ça serait bien. Ça serait sympa, mais si la Providence veut bien, hein. Tu es libre, hein. J'ai entendu un oui. Oh, mais si la Providence veut bien, hein. Tu es libre. Hein. Il y a eu oui ou je sais pas quelque chose. J'ai pris la route. Ah, est-ce qu'il fait référence à ça sa... Parce qu'il est mort sur la route. J'ai pris la route, on entend, mais. J'ai pris la route et après je sais pas. Ça allait vite. Quelque chose comme ça. Il me l'avait déjà dit ça.
Je me souviens que souvent je disais au début de la radio, ce que j'aime le mieux dans la radio, ce sont ce qu'on appelle les parasites, les grésillements. Ça me donne l'impression de,
de traverser des espaces obscurs ou lumineux, de planer à travers les astres.
Londres, le 16 février 1927. Il est 23 heures. Le physicien Oliver Lodge, pionnier de la TSF, à qui l'on doit l'amélioration des transmissions à longue distance entre émetteurs et récepteurs, entame l'une des premières expériences de télépathie radiodiffusée. En accord avec la direction de la BBC, il tente de transmettre par la seule force de la pensée différentes images mentales aux auditeurs. Le dispositif est relativement simple. Toutes les 5 minutes, un objet différent est placé sous les yeux de Lodge. Assis face au micro du studio, il concentre son attention sur l'apparence de ce qui lui est donné à voir pour tenter de transmettre télépathiquement l'information à ses auditeurs. Les objets défileront devant lui jusqu'au lendemain matin, où, à la fin de la retransmission, les personnes qui penseront avoir deviné les objets en question seront invitées à décrire leur vision sur une lettre adressée à la station. La BBC recevra 25 320 réponses, dont certaines décriront des formes proches des objets de l'expérience.
There were several attempts to do
Jeffrey Scones.
Experiments in telepathy and broadcasting.
Il y a eu plusieurs essais de télépathie à la radio, notamment celui de Lodge en 1927, et puis d'autres aux États-Unis durant les années 20. L'histoire d'Oliver Lodge est à la fois poignante et tragique. Lodge était un grand savant, mais aussi le président de la Société de recherche psychique de Londres. Son fils Raymond est mort pendant la Première Guerre mondiale. Et on peut comprendre pourquoi, pendant cette période, la communication avec les esprits a pu intéresser autant de gens. Cela garantissait d'avoir un contact empirique, contrôlé scientifiquement, avec les êtres chers passés de l'autre côté. Le spiritisme en Europe et aux États-Unis trouve une résonance après la Première Guerre mondiale, à cause de cet incroyable bain de sang et du nombre de soldats morts.
Oliver Lodge, 1934.
Il me semble tout à fait certain que l'humanité ne se limite pas au corps physique ou à la brièveté de la vie, mais qu'elle a une existence bien plus grande et bien moins limitée, que nous ne comprenons pas dans sa globalité. Une science globale, qui étudierait ces faits occultes, chercherait à les comprendre et ne laisserait, quant à la question de l'existence, rien échapper à ces considérations.
Lodge fait la rencontre un jour d'un médium. Cette femme lui déclare être en mesure de recevoir des messages que son fils lui enverrait de l'au-delà. Lodge va adhérer à cette idée. Bien après qu'Einstein ait prouvé avec sa théorie de la relativité que l'éther était une illusion, Lodge continuera de parler de l'éther comme un principe scientifique dans les années 20. Il y a quelque chose de poignant et de magique dans tout cela. Mais je crois que ce qui est intéressant dans l'expérience de télépathie de Lodge, c'est ce qu'on appelle le blanc, le silence radio. Quand on fait une expérience de télépathie, on s'engage à ne pas parler. C'est comme ça que ça fonctionne. Et le fait que cela a duré aussi longtemps à l'antenne est fascinant. Un blanc en radio est ce moment où l'on n'entend plus rien sur une station, si ce n'est le silence. Et c'est la pire situation qui puisse arriver à un opérateur de radio. Surtout dans le cadre commercial, parce que dans ce cas, les auditeurs pensent qu'il n'y a rien sur la station et coupent immédiatement leur poste.
Gaston Bachelard, 1949.
La radio ne dort pas. La radio, quand elle dort en face, elle est déjà éveillée ailleurs. Par conséquent, il faut que nous comprenions que nous sommes ici devant une puissance cosmique extraordinaire, que la parole est dans l'atmosphère, que jamais on ne pouvait concevoir une espèce d'ubiquité des sons, des paroles et des significations des poèmes et de la musique, et que nous sommes ici devant une réalisation cosmique extraordinaire. Jamais l'homme n'a été si puissant depuis qu'il parle à la radio.
With radio and wireless, there becomes the idea that we could actually transmit through space.
Avec la radio et la technologie sans fil, naît l'idée qu'on peut transmettre des messages dans l'espace. Dans les années 20, il y a des gens qui imaginent fabriquer un gigantesque récepteur et émetteur pour envoyer des signaux jusqu'à Mars ou capter des signaux provenant de Mars. C'est un débat qui est toujours d'actualité. Et puis il y a cette notion qu'il y a peut-être une forme de vie intelligente sur Mars. Avec ces gens qui ont découvert des canaux sur la planète. On sait à présent que c'était des marques de plaques glaciaires qui se sont déplacées. Mais à l'époque, ça ressemblait à des marques créées par des créatures dotées d'une forme d'intelligence ou quelque chose comme ça. Cette pensée disparaît un peu dans les années 30. C'est vrai en partie puisqu'on a encore aujourd'hui ce programme de recherche pour une intelligence extraterrestre intitulé SETI, qui ne reçoit presque aucune subvention du gouvernement. Mais qui continue d'utiliser un radiotélescope pour parcourir l'univers et chercher des signaux radio, des signaux d'énergie venant de l'espace, et qu'on pourrait distinguer des phénomènes naturels. Donc, on garde toujours l'espoir que les ondes radiophoniques nous permettront, peut-être pas d'avoir une conversation significative avec d'autres civilisations, mais en tout cas de savoir qu'elles existent.
Camille Flammarion, 1922.
Vous savez que l'astronomie est la première et la plus importante des sciences, et que sans elle, nous vivrions dans un aveugle, dans l'ignorance des merveilles de l'univers. Elle évoque une grandeur, une réalité inénarrable, transportant notre pensée dans l'infini du temps comme dans l'infini de l'espace.
Le 31 août 1907, la revue scientifique américaine publie un article de Camille Flammarion consacré aux possibilités de communication interplanétaire. L'astronome y rapporte notamment les curieuses observations que Marconi, l'un des inventeurs de la radio, a rencontrées récemment à la presse. « On sait, explique Marconi, qu'il existe à Cap Clear, une île au sud-ouest de l'Irlande, une station de télégraphie sans fil. C'est là que sont reçues les dernières dépêches expédiées par les vaisseaux s'éloignant d'Europe et les premiers appels de ceux qui s'y dirigent à travers l'Atlantique. À cette station arrive chaque jour, après minuit, un mystérieux message, intraduisible, incompréhensible. Mais toujours, à un certain moment, variant de nuit en nuit, on reçoit un mot, toujours le même. On ne peut le reconnaître que par son signe invariable. Il n'appartient à aucune langue connue. Depuis 2 années, cette mystérieuse communication n'a jamais manqué de se produire. Et toujours, entre minuit et 1 heure du matin.
Là, toujours pareil, c'est...
Patrick Fuentes.
Flammarion était persuadé que l'âme existait. Attention, ça, il faut bien être précis là-dessus. Il pensait qu'on avait un corps matériel, un corps énergétique et une âme. Les deux premiers disparaissaient à la mort, mais l'âme, elle, continuait à exister.
Et dans quelques-uns de ses écrits littéraires, Camille Flammarion imagine même que certaines planètes pourraient être le lieu d'accueil des âmes des défunts, en fait.
Oh, pas certaines, beaucoup de planètes. Hein. Bon, évidemment, sa planète préférée, c'était Mars. Hein, parce que c'est la planète qui est la plus étudiée. Et apparemment, on pouvait flotter dans l'air, vu que la pesanteur était moindre, etc. Bon, c'était vraiment sa planète préférée. Mais il imagine de la vie sur Capella, il imagine dans ses romans de la vie un peu partout. Hein, effectivement, il y a tellement de défunts sur Terre. À son époque, il avait calculé qu'on comptait un mort par seconde. Alors, vous voyez combien ça fait de défunts. Hein. Donc les âmes de ces défunts, il fallait bien qu'elles aillent quelque part. Donc la plupart du temps, ça allait se réfugier sur les autres planètes.
Alors moi, j'ai pensé à un texte de Kafka, à mon avis, qui est essentiel sur toutes ces questions-là. C'est une lettre à Milena, en fait, écrite dans les années 20. L'écrire des lettres, c'est se mettre nu devant les fantômes. Ils attendent ce geste avidement. Les baisers écrits ne parviennent pas à destination. Les fantômes les boivent en route. L'humanité le sent et lutte contre le péril. Elle a cherché à éliminer le plus qu'elle pouvait le fantomatique entre les hommes, à obtenir entre eux des relations naturelles, à restaurer la paix des âmes, en inventant le chemin de fer, l'auto, l'aéroplane. Mais cela ne sert plus de rien. Ces inventions ont été faites une fois la chute déclenchée. L'adversaire est tellement plus calme, tellement plus fort. Après la poste, il a inventé le télégraphe, le téléphone, la télégraphie sans fil. Les esprits ne mourront pas de faim, mais nous périrons.
Les langues de l'éther par Philippe Baudouin. Merci à Bernadette Bensaud-Vincent, Anne Franquini, Annelise Signoret, Marie Chartron, Laurence Mayer, Dominique Millet, Jenny Slater, Regina Gris-Aberdenton, Maxime Lachaud, Thibaut de Ruyter, Xavier Makowski, Renaud Évrard, ainsi que la Société Astronomique de France. Lecture des textes, Pierre Athé. Documentation musicale, Antoine Villoz et Romain Couturier. Traduction, Louise Enaf, lu par Thibaut Buccellato. Archivina, Marie Chauveau. Coordination, Inès De Bruyne, Alice Ramon et Irène Omelianenko. Prise de son et mixage, Claude Nior. Réalisation, Lionel Quentin.
Non, s'il vous plaît, rallumez-le. Merci.
Vous pouvez réécouter et podcaster les deux documentaires de cette semaine autour des esprits, des fantômes et des voix de l'au-delà, Les messagers de l'invisible par Annelise David et Les langues de l'éther par Philippe Baudouin, tout est sur le site internet de France Culture. Nous restons dans les esprits. Demain soir, Thomas Baumgartner, dans l'atelier du son, parlera marabout avec la nouvelle revue Jeff Clack et recevra le multi-instrumentiste Pierre Bastien. En attendant, il sera bientôt minuit, vous écoutez France Culture et dans un instant, vous retrouverez l'éloge du savoir avec Christine Goémet.